J'aimerais ce matin vous parler de l'adoration. L'adoration, j'ai appelé mon message l'adoration de bonne odeur. Nous avons loué le Seigneur ce matin, nous avons chanté des cantiques, nous avons dit au Seigneur notre reconnaissance, mais l'adoration, c'est quelque chose de différent de la louange. Je dirais que c'est beaucoup plus profond encore que l'expression de la louange, de l'action de grâce, de la prière. L'adoration, c'est toute une attitude intérieure, c'est un état intérieur, un état d'esprit aussi dans lequel nous vivons, et surtout un état de disponibilité pour Dieu. Et on va lire un texte, si vous voulez, dans l'évangile de Jean, au chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 1er. Tout de suite, on nous dit que c'était 6 jours avant la Pâque. Et Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui avait été mort et qu'il avait ressuscité des morts. Vous voyez la sobriété de la Bible. Nous, on en aurait fait toute une tartine sur la résurrection de Lazare. Et puis voilà, le Saint-Esprit résume tout cela en une phrase. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Une adoration de bonne odeur. C'est ce que Marie, la sœur de Lazare et de Marthe, va décider d'offrir à Jésus ce jour-là. Elle aurait pu être à d'autres tâches à ce moment-là. Vous avez remarqué, il est dit « Marthe servait ». Là aussi, deux mots pour résumer en quelque sorte ce que Marthe était en train de faire. Et on verra tout à l'heure que ce n'est pas la première fois où la parole de Dieu, l'Évangile, nous parle de Marie. Et vous verrez que déjà au moment où il est parlé de Marthe et de Marie, on retrouve à peu près les deux sœurs dans la même position. Une sert dans des choses matérielles, elle sert le Seigneur d'ailleurs, et l'autre est dans une position d'adoration de Jésus. Et on verra qu'il y a derrière cela une leçon à tirer pour nous. J'aimerais quand même lire un autre passage dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 14, 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Ici, l'apôtre rappelle que les chrétiens sont appelés à être la bonne odeur de Christ dans le monde comme dans l'Église, puisqu'il parle de ceux qui sont sauvés et de ceux qui ne sont pas encore sauvés, qui sont morts. Et donc on peut comprendre que les morts, de quoi ils ont besoin, ce n'est pas d'une odeur de mort, une odeur de vie. Et ceux qui sont vivants, eh bien une odeur de mort, dans le sens peut-être de la mort à soi-même, de faire mourir les œuvres de la chair. Et dans ce sens-là, on pourrait penser donc que cette odeur de mort, c'est surtout au milieu du peuple de Dieu qu'on doit le transmettre. Car je crois qu'en tant que chrétien, on doit effectivement veiller à ne pas exciter la chair de notre frère ou de notre sœur, mais au contraire, être pour sa chair une odeur de mort, de manière que la chair reste là où elle doit être, c'est-à-dire crucifiée avec Jésus, dans la mort. Mais aussi une odeur de vie au milieu de ce monde qui est perdu, afin que ceux qui sont morts spirituellement puissent, n'est-ce pas, à notre contact, eh bien, s'éveiller à la vie de Dieu, à la vie spirituelle, à la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut faire à travers nos vies. Donc, un parfum. Et on voit que ce parfum, eh bien, à l'image de Marie, c'est aussi ce parfum d'adoration, où il n'y a pas forcément beaucoup de paroles qui sont adressées à Dieu. D'ailleurs, je vous dirais que c'est biblique de ne pas adresser à Dieu trop de paroles, puisque déjà dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit « Lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque tu viens dans la maison de Dieu, fais attention à ce que tu vas dire. Hein, et que tes paroles soient peu nombreuses, parce que la Bible dit dans ce passage que là où il y a beaucoup de paroles, il y a souvent beaucoup de vanité, beaucoup de choses inutiles, et même des péchés. Hein, donc c'est pourquoi il faut faire attention à ce qu'on dit, surtout quand on le dit devant Dieu. Et les textes qu'on va lire, qu'on a lus déjà dans Jean 12, nous verrons qu'il y a très peu de paroles qui vont être prononcées par cette femme, Marie. Et pourtant, il me semble que dans le Nouveau Testament et dans les évangiles, c'est vraiment l'exemple, cette femme, l'exemple de l'adorateur. Et j'aimerais en tirer quelques leçons en voyant avec vous quelques caractéristiques qui concernent cette femme, Marie, et qu'on peut effectivement appliquer à l'adorateur, quelques caractéristiques de l'adorateur. D'abord, j'aimerais pour cela revenir dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, une expérience qui est rappelée ici, que vous connaissez sûrement. On la lit rapidement dans Luc 10, 38. « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. » Donc on sait que c'est à Béthanie, ce village dont il est parlé ici. « Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. » Quelle est ici la caractéristique qui est mise en évidence concernant Marie? Je crois que Marie est une femme qui aime Jésus. Elle va le montrer à plusieurs reprises et qui a le profond désir de le servir. Et je pense que Marie, comme Marthe d'ailleurs, avait le désir de bien accueillir Jésus chez eux. Je crois que la notion d'hospitalité dans certaines régions du monde est une notion très importante qui est à court au Moyen-Orient, comme d'ailleurs en Afrique aussi, et dans d'autres pays où on met l'hospitalité au-dessus de bien d'autres choses. Et donc je suis persuadé que Marie, comme Marthe, voulait réserver à Jésus et à ses disciples le meilleur accueil possible. Et pourtant, Marie a fait un choix, celui de laisser la cuisine pour venir au pied de Jésus, écouter la parole du Maître. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'elle a compris quelque chose, et je crois que cela aussi, l'adorateur va le comprendre, et il faut qu'on le comprenne si on veut vraiment être un adorateur du Dieu vivant. Elle avait compris que son besoin, au-dessus de tous les autres, son besoin était d'écouter la parole du maître. C'est cela qui primait sur toute autre activité. Et c'est pour cela qu'elle a laissé l'activité, qui pourtant était une activité de service pour le maître, mais elle a considéré que le maître lui-même, la parole du maître, était plus importante que même le service du maître. Quelle priorité nous avons dans notre vie par rapport à notre maître, par rapport à Jésus? J'ai remarqué que c'est très facile de se laisser entraîner par le service. Et on peut dire que Marthe, elle était occupée à servir Jésus, n'est-ce pas? Elle préparait le repas qu'elle allait ensuite servir à Jésus et ses disciples. Dans l'histoire de Jean 12, on a remarqué que, là encore, Marthe était au service, n'est-ce pas? Elle servait aux tables, elle servait ceux qui étaient là à manger. Mais Marie, elle, Marie était dans une autre attitude, dans une autre sphère, dans une autre dimension, dans une autre position. Il ne faudrait pas en déduire que Marie était une fainéante qui ne savait pas faire le travail quand il fallait le faire. Je pense que Marie, en d'autres occasions, a dû et devait sûrement rendre d'énormes services aussi avec sa sœur Marthe. Mais elle savait reconnaître les priorités et elle savait quand il fallait laisser le service pour venir écouter le maître et se mettre à ses pieds. Et c'est pour ça que Jésus dira à Marthe, qui va interpeller le Seigneur sur l'attitude de sa sœur, en lui disant: Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais sache que Marie, elle a fait le bon choix. Elle a choisi la meilleure part. Jésus ne va pas mettre en opposition ce que Marthe fait avec ce que Marie fait, mais il va montrer qu'il y a une question ici de priorité. Et la priorité, si l'on veut être un adorateur, eh bien, c'est d'abord de nous préoccuper du maître et de sa parole. Qu'est-ce que tu as à me dire, Seigneur? Comment pourrais-je effectivement adorer Jésus si d'abord je ne sais pas me tenir à ses pieds pour l'écouter? Comment pourrais-je trouver des mots à adresser à mon Dieu si d'abord je n'ai pas reçu les mots que lui a à me dire? Il y a un texte dans le livre des Proverbes, je crois, qui dit ceci, que celui qui ne sait pas écouter la loi de Dieu, la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Pourquoi cela? Eh bien, parce que l'expression de nos mots ont besoin de trouver leur source, leur origine dans la parole du Seigneur. C'est quand nous lisons la Bible, c'est quand nous écoutons la parole du Maître avec un cœur dégagé de toutes les préoccupations, de toutes les agitations que le service même pourrait procurer, produire à notre vie. C'est quand nous sommes dans cette attitude que nous recevons la parole qui crée en nous la foi, la parole qui crée en nous une attitude, une compréhension juste de Dieu, qui nous conduira aussi à présenter au Seigneur cette adoration de bonne odeur qui lui plaît, qui lui convient. Celui qui sait écouter, dit aussi un autre proverbe, saura aussi parler. Mais avant, donc, on voit qu'il y a cette priorité d'être à l'écoute du Seigneur. Ce jour-là, Jésus enseignait. Il est venu dans cette maison pour parler, pour enseigner. Et Marie a compris que, à ce moment-là, son besoin n'était pas de préparer le repas, même si, effectivement, il y a des contingences qui sont nécessaires de prendre en compte. Mais à ce moment-là, la priorité, c'était qu'elle soit à l'écoute de Jésus. Le maître, rappelez-vous cela, est plus important que le service que nous pouvons même accomplir pour le maître. Le premier service du chrétien, c'est d'être à l'écoute
de son maître. La première chose qu'un serviteur doit faire, s'il veut servir son maître, c'est d'abord d'écouter qu'est-ce que le maître a à lui confier comme tâche. Le serviteur, il a les yeux sur son maître, il est à l'écoute du maître pour voir qu'est-ce que le maître va lui confier comme tâche. Et donc c'est la priorité des priorités, et elle va montrer donc ce choix dans le choix qu'elle fait ce jour-là. Elle aurait pu être avec Marthe, sa sœur, servir, oui, mais elle a choisi la meilleure part, dit Jésus. Et pour cela, elle s'est exposée à la critique, au jugement, à la mauvaise appréciation de sa propre sœur. Parce que vous l'avez vu qu'effectivement, sa sœur va juger la position de Marie inconvenante dans cette circonstance. Et je pense que si elle n'avait pas manifesté son mécontentement à Jésus, eh bien on n'aurait jamais su que finalement Marie avait choisi la bonne part. On aurait peut-être pensé comme Marthe que finalement, au lieu d'être là à écouter Jésus parler, Marie aurait mieux fait d'aller aider sa sœur à la cuisine. Eh bien non, non. Et l'adorateur, c'est quelqu'un qui sait faire le bon choix au bon moment, qui sait qu'il y a une priorité dans sa vie, c'est de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et je pense que pour être un adorateur, il faut commencer nos journées avec la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Il faut prendre ce temps, même s'il y a plein de choses, mais quand le maître nous dit « c'est le moment pour toi d'écouter ma parole », eh bien, je dois être là et je dois prendre le temps, je dois me laisser toutes ces choses qui me préoccupent de côté. Je lisais encore ce matin dans ma lecture quotidienne, dans le psaume 131, cette parole de David qui disait qu'il ne s'occupait pas de choses trop grandes, trop relevées pour lui. Et il dit, loin de là, j'ai l'âme tranquille. Mais pour qu'il puisse dire ça, il dit, j'ai imposé à mon âme. J'ai imposé à mon âme. Si on ne s'impose pas des choses, mes frères et sœurs, on est tout le temps pris dans tout un tas d'activités. Et cela dès notre réveil jusqu'à ce qu'on se couche parfois tard le soir. Alors, imposons-nous. Si l'on veut être cet adorateur de Dieu et ce témoin de Jésus dans ce monde, imposons-nous ce temps d'écoute du Seigneur. Là, dit David, je suis comme un bébé qui vient de boire le lait de sa mère au sein et qui repose maintenant tranquillement dans les bras de sa maman, repu. C'est une belle image, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont des bébés, vous voyez ce que ça veut dire. Hein, un bébé qui a bu, qui maintenant a fait son rot et tout, et qui est là, il dort paisiblement dans les bras de sa mère. Eh bien, si on sait s'imposer cette activité d'écoute du Seigneur, c'est comme cela qu'on va être nous aussi dans notre journée. À Dieu, pression, à Dieu, oppression, à Dieu, toutes ces choses qui rendent le cœur si malheureux, l'âme si triste dans la journée. Au contraire, dit David, je suis paisible. Avis aux amateurs. La deuxième chose que je voudrais souligner dans Marie, c'est dans Jean 11, donc c'est un peu avant le texte qu'on a lu, justement au moment où va se produire la résurrection de son frère Lazare. Et vous savez un petit peu le contexte. Marie et Marthe ont été profondément déçues de Jésus parce qu'elles n'ont pas compris quelque chose dans la façon d'agir de Jésus. Au moment où elles avaient le plus besoin de lui, et d'ailleurs elles ont fait appel à lui alors que leur frère était près de mourir, la Bible nous dit que Jésus volontairement n'a pas répondu tout de suite à la demande des sœurs, mais il est resté 2 jours de plus dans l'endroit où il était. Et pendant ce temps-là, Lazare est mort. Lazare est enterré, mis dans le tombeau. Enfin, on n'enterrait pas à l'époque, on mettait dans une grotte, enveloppé dans un linge, sur une table de pierre. Et quand Jésus arrive dans le village, ça fait 4 jours que Lazare est déjà mort et mis dans le tombeau. Et on peut imaginer n'est-ce pas, tout ce qu'il y a dans le cœur de ces deux sœurs par rapport à Jésus. Une incompréhension, ça c'est sûr, voire même des reproches. Marthe d'ailleurs va en faire d'une façon plus ou moins déguisée. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et puis, à un moment donné, donc, elle revient vers sa sœur, Marthe, et on va prendre le texte au verset 28 du chapitre 11 de Jean. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Tout à l'heure on parlait d'adoration, de se prosterner, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle tombe à ses pieds, elle se prosterne devant Jésus. Et elle lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému, et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Le maître est ici et il te demande. Vous imaginez dans quel état d'esprit Marie se trouve à ce moment-là. Elle est attristée par la mort de son frère. Elle ne comprend pas pourquoi Jésus n'est pas venu avant. Et pourtant, on remarque une chose, son empressement pour le maître. Dès qu'elle apprend que le maître est là et que le maître la demande, l'appelle, tout de suite, elle se lève promptement, elle laisse là ce qu'elle faisait pour aller vers son maître. Et quand elle arrive vers le maître, que fait-elle? Elle se jette à ses pieds, elle se prosterne aux pieds du maître. Je trouve cette attitude de Marie remarquable. Il y a tellement de chrétiens qui, lorsqu'ils ne comprennent pas pourquoi Dieu n'a pas répondu à leur prière, boudent le Seigneur. Que quand je vois cette femme qui a été déçue par le Seigneur, qui est dans une profonde détresse parce qu'elle vient de perdre son frère, alors que Jésus aurait pu le guérir, quand je vois que ce qu'elle vient de vivre ne l'empêche pas de venir aussi promptement dès que le maître l'appelle, je me dis là, il y a la marque d'un véritable amour et respect pour le maître. Parce que même lorsque l'adorateur ne comprend pas ce que son maître fait, l'adorateur reste et demeure un adorateur de son maître. L'adorateur, c'est quelqu'un qui a un profond respect pour Jésus, quelles que soient les circonstances. Qu'il comprenne ou qu'il ne comprenne pas ce que le maître fait, peu importe. J'aime Jésus et je l'aimerai, quoi qu'il fasse. Ça me rappelle quelque chose, ces trois amis de Daniel qui disaient au roi, n'est-ce pas, qui voulait les menacer de les mettre dans la fournaise ardente, vont dire, tu sais, roi, celui que nous servons, il est tout à fait capable de nous délivrer de tes mains, de la fournaise. Mais même s'il ne le fait pas, sache qu'on n'adorera pas ton Dieu. On restera fidèle à notre Dieu. Ça, c'est la parole d'adorateur. Pas de condition. J'adore Dieu parce qu'il est mon Dieu. J'adore Jésus parce qu'il est mon maître et qu'il est digne d'être adoré. Je ne l'adore pas parce qu'il a répondu à mes prières, il a exaucé tout ce que je voulais. Non, ça c'est inverser la position. Dieu n'est pas notre larbin qui obéit dès qu'on le sonne. Dieu reste Dieu. Je dois admettre qu'effectivement, il y a des choses que Dieu fait, que que je ne comprends pas toujours, en tout cas sur le moment. Mais est-ce que c'est pour cela qu'il faut remettre en question notre offrande à Dieu, notre service pour Dieu, notre adoration pour Dieu? Croyez-moi, si tous les chrétiens étaient des vrais adorateurs comme Marie, les églises seraient pleines, abondantes, comme ce matin, et le service de Dieu serait abondant aussi, parce que beaucoup de ces chrétiens qui ont abandonné leur service pour le maître à cause d'une déception, d'une incompréhension, seraient encore aujourd'hui dans leur service à accomplir ce que le maître désire. Et si c'était le cas de quelqu'un au milieu de nous ce matin, alors j'aimerais te faire entendre, mon frère, ma sœur, cette parole de Dieu. Le maître est ici. Le maître est ici. Et il te demande. Et il te demande. Que vas-tu faire? Moi, j'aimerais te dire, fais comme Marie. Lève-toi promptement. Et viens vers le maître et prosterne-toi devant lui. Parce qu'il mérite cette adoration de ton cœur. Et c'est vrai que ça va te coûter. Parce que quand on ne comprend pas, quand on n'a pas forcément à dire merci au Seigneur, ça coûte d'adorer le Seigneur, d'apporter notre adoration au maître. Ça coûte. Et ça devient alors un véritable sacrifice. Quand la Bible parle de présenter un sacrifice de louange au Seigneur. Si tout va bien, où est le sacrifice? Si on loue Dieu que quand tout va bien pour nous, où est le sacrifice? Il n'y a pas de sacrifice à faire. Ça vient naturellement. Je suis béni, je comprends tout, le Seigneur est là, je sens sa présence. Ce n'est pas un sacrifice, ça vient tout seul. Mais quand tu es comme dans une détresse profonde, tu ne comprends rien à ce qui t'arrive. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, que Jésus n'a pas répondu au moment où il fallait, que tu es pressé de toutes parts par l'angoisse, la tristesse. Là, si tu loues le Seigneur ce jour-là, ça sera vraiment de ta part un sacrifice de louange. Tu auras sacrifié cette louange pour le Seigneur malgré l'état de ton cœur. Toujours prêt pour le maître. Toujours prêt à manifester notre amour, notre confiance et notre soumission à Jésus. Quoi qu'il arrive. Maintenant, j'aimerais aussi ajouter cela, c'est que, étant dans la présence de son maître, elle va être vraie avec lui. Et ça aussi, c'est la marque du vrai adorateur. Pas de faux semblants, pas d'hypocrisie. Elle est dans la tristesse, elle vient devant son maître avec sa tristesse. Elle ne comprend pas ce que Jésus a fait. Elle vient devant Jésus, elle exprime cette incompréhension. Vous savez qu'on peut dire tout à Dieu. Il n'y a pas de sujet tabou avec Dieu. Si tu as peur de parler de quelque chose avec Dieu, dit l'apôtre Jean, c'est alors que tu n'as pas compris encore l'amour que Dieu a pour toi et que toi-même tu n'es pas encore entré dans ce véritable amour qui bannit toute crainte, toute peur. Vous savez, souvent, ce qui amène quelqu'un à être hypocrite, à ne pas être vrai, c'est la crainte. Soit la crainte des autres, soit même la crainte de Dieu. Mais quand tu es dans l'amour, Jean dit, l'amour parfait bannit toute forme de peur. Et on voit que Marie, quand elle vient vers Jésus, elle ne vient pas, vous savez, avec un petit sourire, « Oui, tout va bien, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ?» Non. Elle vient avec sa tristesse. Elle a quitté un lieu où elle était triste. Elle arrive devant le Seigneur. Elle manifeste sa tristesse, ses pleurs, sa souffrance à Jésus. Elle est partie avec une incompréhension vis-à-vis de Dieu. Quand elle arrive devant Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle exprime son incompréhension. Si tu avais été là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Elle manifeste clairement ce qui est dans son cœur. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important, mes frères et sœurs, d'être vrai avec Dieu. Si un matin tu te lèves, tu es troublé, eh bien, ne fais pas le fanfaron devant Dieu, mais dis au Seigneur ton trouble. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? exprime tes vrais sentiments. S'il y a de la révolte dans ton cœur, eh bien, ne fais pas semblant d'être un doux agneau, mais exprime ta révolte au Seigneur. Et demande à Dieu qu'il calme cette révolte. Soyons vrais, mes frères et sœurs. L'adoration nécessite, exige que nous soyons vrais. Pourquoi ? Parce que nous l'avons chanté. Dieu est lumière. Et celui qui s'approche de Dieu doit être vrai, doit vivre dans la lumière. Notre péché n'est pas un problème pour nous approcher de Dieu si nous marchons dans la lumière et que nous le confessions et que nous ne le cachions pas. Quand est-ce que le péché devient un problème dans la vie du croyant ? C'est quand ce croyant le cache. C'est là que ça devient un vrai problème. Mais quand tu vis à la lumière avec ton Dieu, que tu ne caches pas tes péchés au Seigneur, que tu les confesses dans la foi au Christ, qu'est-ce que dit la Bible ? Dieu est fidèle et juste pour te les pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Et on a besoin d'un cœur purifié pour adorer le Seigneur. C'est impossible de rester tranquille devant Dieu si notre cœur n'est pas pur, si notre cœur n'est pas lavé par la foi dans le sang de l'agneau, si notre cœur n'est pas lavé par une vraie repentance qui n'est pas simplement une confession de temps à autre, mais qui est de vivre devant le Seigneur en vérité à la lumière de Dieu. De toute façon, on ne peut rien cacher à Dieu. C'est pour ça que c'est toujours un piège si on essaye de se cacher nous-mêmes devant Dieu. On ne peut rien cacher à Dieu. Rappelez-vous Adam qui a essayé de cacher sa nudité avec des feuilles, puis ensuite qui a essayé de se cacher derrière les arbres du jardin. Rien n'y a fait. Dieu savait très bien où était Adam. Hein ? Mais s'il lui a dit « Où es-tu ?» C'était juste pour que lui se situe, pour que lui se montre. Sinon, on n'a pas besoin de se cacher. Dieu sait exactement où on est. Et ce matin, il sait exactement où tu en es aussi. Hein ? Alors, crois-moi, plutôt que de te cacher, eh bien, viens devant lui tel que tu es et exprime ce que tu es au Seigneur. Ça va te libérer et ça va faire de toi quelqu'un d'épanoui, quelqu'un de libre, quelqu'un qui va pouvoir vraiment servir le Maître avec ce qu'il est. Amen. Oui, l'adorateur, dira Jésus, c'est quelqu'un qui adore Dieu en esprit et en vérité. Amen. Et puis, on l'a vu dans Jean 12, elle va ensuite exprimer quoi ? Sa reconnaissance. Voyez ? Elle est passée par différentes phases, mais là, maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur ? Jésus a ressuscité son frère. Jésus a consolé son cœur. Jésus a enlevé son incompréhension. Et ça, c'est formidable parce qu'on sait que même si on ne comprend pas tout maintenant, un jour viendra où on comprendra tout parfaitement. Et je peux vous dire une chose, le jour où vous comprendrez vraiment ce que Dieu est en train de faire ou a fait dans votre vie, vous serez confus d'avoir imaginé quoi que ce soit d'injuste de la part de Dieu. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui est injuste dans ce qu'il fait, c'est bien l'être humain, jamais Dieu. Et si dans ton cœur il y a une seule parcelle de pensée que Dieu pourrait être injuste à ton égard, sache que toi, tu es injuste en pensant cela de la part de Dieu. Parce que la Bible dit, il n'y a aucune injustice. Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait avec compassion, avec bonté, avec amour. Et s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, alors admets que tu ne comprends pas tout. Mais tu verras que le jour où le Seigneur te montrera l'aboutissement de ce qu'il faisait dans ta vie, tu n'auras que comme Marie, simplement un parfum à lui apporter. D'adoration. Oui, d'adoration. Un bon parfum de reconnaissance. Seigneur, je t'apporte ma reconnaissance. Et quand on apporte une reconnaissance au Seigneur, les offrandes, les chants, les louanges, le témoignage qu'on rend autour de nous, les services qu'on va rendre, tout cela sera vraiment l'expression de notre reconnaissance. Et je crois, frères et sœurs, ne pas me tromper en disant que tout ce que nous faisons ensuite pour le Seigneur, comme ce matin, l'offrande, venir louer le Seigneur. Pour ceux qui ont servi la Sainte Cène, qui ont servi par le chant, la musique, etc., d'autres qui ont servi avec les enfants, si ce que nous faisons n'est pas l'expression de notre reconnaissance, notre amour pour le Seigneur, à quoi ça sert de le faire? À quoi ça sert? Est-ce que ça peut plaire à Dieu? Moi, je crois que ce qui plaît à Dieu, c'est quand il y a, de notre part, un amour véritable qui est exprimé. Quoi que nous fassions, que ce soit vraiment pour lui que nous le faisons. Ne nous laissons donc pas prendre par tout un tas de choses superflues, ni même par le service. Si notre service nous empêche d'accomplir ce qui est prioritaire, posons-nous la question, est-ce que je suis encore en train vraiment de servir le maître? Ou est-ce que c'est le service qui a pris la place du maître? Le maître, c'est lui qui doit avoir la première place dans notre vie. Servons-le. Et ce matin, le Seigneur te dit, il est ici et il t'appelle. Il te demande. Voudrais-tu maintenant lui répondre? Nous allons, si vous voulez, nous lever et dire, Seigneur, me voici, comme nous l'avons chanté tout à l'heure encore une fois. Je vous invite à vous lever. Et si vous avez besoin de venir vers le maître ce matin et de dire, Seigneur, je t'apporte ma vie à nouveau, je t'apporte mon cœur, me voici, avec mes incompréhensions, avec ma souffrance, avec ceci, avec cela, mais me voici, Père, puisque tu m'appelles, je veux te répondre. Amen.